Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne de 20h à 21h. Il fait froid, quand ça fait frisquer dans toute la France, mais en tout cas on attend, on espère et puis on sent déjà cette atmosphère bouillante sur le plateau de Time Sport ce soir avec moi, Monsieur Fala, bonsoir, consultant.
Comment tu vas, Claude?
Mais écoute, ça va impeccable.
Écoute, comme d'hab.
Comme d'hab, tranquille, comme d'hab, tout va bien.
Voilà, c'est le début du week-end pour moi.
Ouais, début du week-end, équipe de France qualifiée en début de semaine.
Exactement, ils ont fait une belle prestation, ça fait plaisir. Ils ont été sérieux, on en parlera tout à l'heure. Tout
ouais, ça. Sans oublier Abdel qui va nous rejoindre, il est en train de faire du vélo, il se perd, il fait le tour de l'immeuble.
Besoin,
il cherche la clé. Voilà, il est à son. On me dit, 36e tour. 36e tour, objectif 50 pour Abdel. Voilà, peut-être qu'il arrivera en milieu d'émission. On aura notre invité ce soir, responsable de l'académie, JR Académie 24. C'est ça?
C'est ça.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Bah écoute, ça va impeccable. On t'avait déjà reçu il y a de cela quelques semaines. On va revenir un petit peu, hein, notamment sur l'évolution de cette académie. Tout se passe bien?
Oui, tout se passe très très bien.
Ouais.
Merci, grâce à Dieu, tout se passe bien.
Ok, c'est le plus important. On reviendra tout à l'heure au sommaire de cette émission. On reviendra sur, n'en déplaise à Fala, Lionel Messi, qui visiblement, en termes de communication, a rassuré le Paris Saint-Germain, Leonardo, etc. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Messi restera jusqu'en 2050 au PSG. Sans oublier le Juninho qui a annoncé hier qu'il quitterait certainement donc l'Olympique Lyonnais en fin de saison. Et on parlera voilà de la sanction de l'OM après donc le choc entre l'Olympique de Marseille et le PSG, l'OM qui s'en sort plutôt bien, on espérait peut-être des points au moins, ce sera un huis clos. Allez, on passe à la suite.
Time Sport.
Bonsoir à tous, on démarre les infos du jeudi par des nouvelles de Sergio Ramos qui pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 samedi après-midi face au FC Nantes. Décision à venir de la part de Mauricio Pochettino dans les prochaines heures. Lui qui a déjà annoncé en revanche l'absence de Neymar suite à sa blessure survenue en sélection cette semaine. Et puis côté Nantais, on peut également confirmer l'absence de Nicolas Palois, suspendu pour cette rencontre. En Afrique, Samuel Eto'o se présente officiellement aux élections de la présidence de la Fédération Camerounaise de Football. L'ancien buteur du Barça aurait également refusé un poste de vice-président en étant convaincu de pouvoir justement viser plus haut. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. En tennis, Alexander Zverev affrontera Novak Djokovic en demi-finale des Masters ATP suite à sa victoire 6-2-6-4 face à Hubert Hurkacz. Et enfin, on termine avec du rugby pour le troisième et dernier test de la tournée d'automne face à la Nouvelle-Zélande samedi. Le staff de l'équipe de France a décidé de procéder à 7 changements, notamment celui de Romain Tamak qui effectuera son grand retour à l'ouverture chez les Bleus après 2 matchs en tant que premier centre associé à Mathieu Jalibert. C'est tout pour ce soir, en vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport.
Ah, je suis déguisé en Bilal Nenman, c'est-à-dire que je suis un peu plus clair, les cheveux frisonnants, j'ai quelques rouges. On l'embrasse, Bilal fort. Qui a fait un tour en tout cas dans le sud. Bilal de Brésil est avec nous ce soir. Bilal Aventure, il devrait être là d'ici quelques instants. Yanis me fait signe que il est en train de grimper dans la montagne du côté de São Paulo. Voilà. Donc voilà. Une fois que on va voir Bilal qu'on suit donc le lundi et le jeudi soir dans ses aventures brésiliennes. Allez, on passe au premier sujet.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
On s'inquiétait, Messi, est-ce qu'il s'adapte au Paris Saint-Germain? Est-ce que Messi pense à la sélection argentine? Et finalement, voilà, Lionel Messi, considéré par certains comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, a rassuré son monde. Non, je investis au PSG, je suis motivé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà.
Non, mais en fait, c'était Moi, je comprends pas ce mec-là. Comment il s'adapte pas au PSG? Comment il sent mal au Paris Saint-Germain? C'est un peu des. Moi, je trouve qu'on a fait une polémique un peu autour de lui pour rien du tout. On voulait juste vendre un petit peu de papier, créer un truc, déstabiliser le joueur un peu pour voir si. Mais lui-même, il connaît déjà la suite. C'est-à-dire, le mec, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il est parti en sélection. Il l'a dit déjà avant d'arriver au PSG que c'était sa priorité. Maintenant, je trouve que c'est sur la communication. C'est juste la communication. Je trouve que. Voilà, les supporters, ils l'ont mal pris. Au final, ils sont contents. Le staff, il est content. Leonardo, ils sont contents. Nasser, il est content. Les supporters, ça va bien. Tout va bien. Mais il y a 15 jours, c'était la tête à Messi au Parc des Princes. Donc, moi, je fais pas attention à ça. Je sais que c'est un joueur qui est très, très, très professionnel. On va pas revenir sur sa carrière, sur ce qu'il a, les hauts, les bas. Et à chaque fois qu'il a été dans le bas, il est remonté. Donc, non, pour moi, il y a rien de... Lionel Messi.
Ouais, voilà, ton ressenti, toi, sur Messi, c'est vrai qu'on en attend forcément beaucoup. On ne se pose pas la question. Mais voilà, malheureusement, il y a eu quand même quelques points d'interrogation. Quel est ton sentiment, toi, sur Messi depuis qu'il est au PSG?
Moi, je pense que Messi, il arrive, il faut lui laisser le temps. Laisser le temps de s'adapter au championnat français, qui n'est pas du tout du même niveau que au niveau physique que le championnat espagnol. Donc lui-même, il l'a dit qu'aujourd'hui, sur un championnat extrêmement physique, il faut qu'il s'adapte. Je pense que dans les semaines à venir, on va avoir un meilleur Messi, avec une équipe du PSG bien meilleure aussi, parce que Messi qui peut s'appeler, il lui faut un collectif autour de lui, il lui faut des joueurs autour de lui, au meilleur niveau, un Verratti au meilleur niveau, un Neymar au meilleur niveau aussi. Et je pense qu'on verra le vrai Messi d'ici quelques semaines pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il va être présent. Après, c'est une fausse polémique.
Ouais. Est-ce qu'il est parti pour durer, voilà, Lionel Messi au Paris Saint-Germain?
En tout cas, il a un contrat de 3 ans. Ouais. 2 ans plus 1. Donc, au moins, il est là pour 2 ans. Donc, ces 2 années qu'il va faire au Paris Saint-Germain, il va les faire sérieux. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse dire que ce mec-là... il n'a pas fait de préparation, le mec, déjà, pour commencer.
Ouais, déjà, ouais.
C'est très bien, tu fais pas de préparation, tu vas galérer, tu recommences jusqu'à décembre.
C'est vrai qu'il est rentré tard de la Copa.
Il y a eu son transfert. Le mec, il a passé 20 ans à Barcelone.
Ouais, faut qu'il
je sais
le
pas
digère,
que les gens ils arrivent à comprendre aussi
faut
ce
qu'il le digère, ça.
Dans un exact. Il y a le championnat de France. Les gens, je crois, ils ont tendance à oublier, mais le championnat de France, il n'est pas le niveau. Les gens, quand ils viennent jouer dans le championnat de France, ils le respectent. Ils disent plus la même chose. C'est physique, c'est l'impact.
Bien sûr.
Et pour des joueurs comme ça leur fait bizarre même. Parce que c'est là qu'ils commencent à comprendre et à se dire, mais le championnat de France, en vrai, c'est relevé.
Il y a
de la qualité, il y a de l'impact, c'est physique. Donc les mecs qui se remettent en question, Zlatan au début, c'était pareil. Hein. Il prenait ça là déjà, après il a vite compris. Hein. Au bout de 3-4 mois, il avait compris qu'en fait le championnat de France, il était quand même relevé. Il y avait un bon niveau.
On sous-estime, de l'étranger le championnat de France?
Oui, bien sûr, moi je pense qu'il est sous-estimé, mais quand tu regardes dans les confrontations avec les équipes européennes, les Français s'en sortent bien. Hein. Quand tu regardes il y a quelques années, Rennes qui va aussi loin en Ligue Europa, Lyon qui fait une demi-finale, PSG ça fait finale plus demi-finale, le championnat français il est pas si nul que ça. Et je peux te dire que physiquement, moi en allant voir des matchs en Liga en Espagne, en regardant des matchs en France... le niveau physique en Espagne n'a rien à voir avec le niveau. Et pourtant, je suis un fan de football espagnol. Hein. Je suis un fan. Hein. Moi, je me déplace là-bas, je vais voir les matchs. Mais je te dis, physiquement en France, c'est vraiment dur. Donc, Messi, il faut qu'il s'adapte. Et puis, moi, je suis d'accord avec Fala, la digestion. Il faut qu'il digère ses 20 ans de Barcelone. Depuis tout petit, il est là-bas. C'est un être humain. Hein. Ouais. Ça peut être Messi ou quoi que ce soit, mais ça reste un être humain. Donc, et pourtant, moi, je suis pas un vrai fan de Messi. Donc, c'est pour te dire. Donc, mais pour moi, on verra un vrai Messi parce que c'est un grand joueur d'ici quelques semaines, ça c'est une certitude.
C'est clair. Et de toute façon, moi je pense même, bon là on voit bien la sélection, ça lui fait du bien à chaque fois qu'il va en sélection, ça lui redonne l'énergie, ça le rebooste. Bon là on va bientôt arriver sur la fin de la première partie championnat au mois de décembre. Moi je vous ai dit, à partir de janvier, c'est là qu'on va voir la vraie équipe du PSG avec eux. Parce qu'ils vont élever leur niveau, il y a les huitièmes de finale. Parce qu'à chaque fois que le PSG, en fait, a commencé fort, on l'a vu, ils ont arrêté, de toute façon, cette gestion et politique de commencer fort. Ils sortaient en huitième quart de finale. Parce qu'ils envoyaient, tu vois, et les Syriens arrivaient en décembre, fou. Janvier, impossible de remettre, le mec est trop cramé. Et en général, si tu regardes bien les 5-6 gros européens, ils ont le niveau pour les poules, mais à partir de février, c'est là que tu vois les machines. Là, tu vois les machines. À part peut-être un Bayern ou une institut où on leur demande d'être. Tu vois, mais sinon, ils élèvent au fur et à mesure leur niveau. Il n'y a rien d'alarmant. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'alarmant au PSG. Après, oui, on est avec l'équipe qu'ils ont.
De toute façon,
c'est normal qu'on en attend aussi beaucoup les joueurs qui composent le PSG.
Il faut leur laisser le temps. Et surtout à Lionel Messi, il faut lui laisser le temps, le mec. Là, c'est une nouvelle vie qu'il est en train de remettre en place.
Bien sûr, tout en sachant que tu as vu, Fala, tu as raison. Les équipes européennes, généralement, la préparation physique, elle est adaptée pour arriver fin prêt en février.
Ouais, c'est ça.
Elle n'est pas adaptée pour être fin prêt au mois de novembre. C'est-à-dire que le supporter, lui, il pense quelque chose, c'est mais ça. Entre le supporter et le sportif, et il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est à partir du mois de février que tu vas avoir un grand PSG, un grand Real Madrid, des grosses équipes, c'est là que tu vas les voir.
C'est vraiment là que tu vas les voir. On a longtemps parlé de Messi, puis Sergio Ramos qui voit aussi le bout du tunnel, qui devrait jouer visiblement contre le FC Nantes.
Ouais, ça, c'est encore une polémique. Moi, je trouve que c'est encore une polémique. Je pense que le PSG a. Après, je ne sais pas si c'est la communication qui a mal été faite par rapport aux supporters ou par rapport aux médias, tout ça. Mais je pense que le PSG, depuis le départ, ils savent très bien ce qu'ils font avec Sergio Ramos. Que lui, il a eu envie de jouer parce que ça fait déjà peut-être un mois et demi, deux mois qu'il, lui, il se sent prêt à jouer. Et je le disais déjà en émission depuis. Je disais que Sergio Ramos, lui, apparemment, il serait. Lui, il sent. Mais le PSG, c'est vrai qu'il ne veut pas prendre de risque avec ce joueur-là. Et ils ont raison. Parce que ce mec-là, il va apporter. Pour moi, il va commencer à apporter à partir de janvier, février. Et pour eux, pour moi, c'était. Bon, après, il y a eu la blessure, ça aussi, ça a joué. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils ne voulaient pas précipiter. Parce qu'il va arriver à un moment clé pour le PSG. S'ils veulent la gagner, si les champions, je pense que ce mec-là, il va leur apporter en termes de. Sur les matchs à confrontation directe. Il va falloir leur. Jeff, il pourra te le dire. Où il va falloir relever les mecs dans le vestiaire à un moment où peut-être ils vont décrocher ou voilà. Ces mecs 4 des champions contre des palmarès qu'il a, c'est-à-dire tout joue pour lui en fait.
C'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain quand on voit quand même les t'as Messi, t'as Ramos, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Verratti, il y a du beau monde. Moi, on se dit que normalement on devrait sur les deux saisons.
Moi cette question elle me pose problème parce qu'en fait il y a rien en fait, il y a quoi en fait qui les menace de cette année vous êtes obligé de la gagner. À part le oui quand tu regardes la feuille de match. Mais il faut encore rassembler tout ça.
Mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas être dans ce débat-là. Il ne faut pas regarder une équipe par rapport au nom.
C'est ça.
Parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, mais si tu n'as pas une vraie équipe, comme il a dit Zlatan, à un moment donné, il a dit nous on avait une vraie équipe et ils n'ont pas encore d'équipe. Et quand tu le vois sur les matchs, ils n'ont pas encore d'équipe.
Il n'y a pas de collectif, on sent que c'est l'absence de cohésion quand même. Hein.
Voilà, m'ennuie, il n'y a pas énormément de cohésion, ils jouent sur leur talent intrinsèque. Mais il faut travailler pour trouver un collectif et que toutes les individualités soient au service du collectif.
Donc en gros, Jess, ça veut dire que si jamais le PSG n'est pas capable d'élever son niveau de jeu, peut très bien se faire sortir.
Ah, mais bien sûr. De toute façon, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ils sont vraiment. C'est ça aussi après le problème. Parce que comme il a dit Jeff, ça repose que sur des individualités là, pour l'instant. Il n'y a pas de collectif. Et moi, ce qui me pose le même problème, c'est que Laurent Blanc, il avait réussi à installer quelque chose. Et
très belle équipe, Laurent Blanc.
Et même on commence à avoir une identité.
Ouais.
Et les saisons ont passé et on voyait toujours la même identité. Et je comprends pas comment après. Bon, après, ils ont changé de coach et tout. Ça, on est reparti sur un nouveau cycle. Mais Laurent Blanc avait réussi, même avec toutes ses stars, à concentrer tout le monde. Après, ça lui a coûté peut-être sa peau, son poste à City.
Après, c'est vrai qu'avec Laurent Blanc, ils étaient plus sur un jeu.
En 4-3-3, mais ça allait à tout le monde.
Tu vois.
Et en fait, à ce moment-là, je pense. Il y avait un milieu de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, au PSG, le fait que Thiago Motta ne soit plus là, il n'a pas été remplacé, ça, c'est un gros
problème. La possession, c'était la valeur du PSG.
Moi, je dis Verratti, Thiago Motta, c'était un peu.
Et Rabiot qui est en train d'exploser. Alors, il n'est pas avec nous en plateau, mais il a laissé son vélo. Voilà, il a fait ses 56 tours de l'immeuble, mais il a asphyxié. Il n'a pas pu monter, de prendre l'ascenseur. Mais il est avec nous au téléphone, Abdel. Bonsoir, Abdel.
Salut Claude, bonsoir à tous, voilà, Yannick, Dieu Verson, bienvenue. C'est pas très loin.
On t'attendait loin, avec nous là ce soir, Abdel, là.
Je suis là, je suis juste à côté, mais bon, en attendant, il y avait un sujet passionnant qui est Messi, donc je me devais d'y participer.
Ok, il a abandonné la course pour répondre sur le sujet. Ton avis, toi, Abdel, sur le Lionel Messi qui a finalement rassurer les supporters parisiens, rassurer ses dirigeants, et puis voilà, on va dire son petit bilan depuis son arrivée, Abdel.
On va dire que sa déclaration, c'est un mal pour un bien, parce qu'à partir du moment où, de toute façon, il est venu au PSG, c'était clair qu'il avait donné priorité à l'Argentine, comme il avait dit aux dirigeants. Ça veut dire que ça lui enlève une épine du pied et qu'il va sûrement plus se concentrer sur le PSG, la Ligue des Champions, notamment. Par rapport à son bilan, c'est vrai que voilà, on dit qu'il n'a pas marqué en Ligue 1, mais bon, on va dire que on l'attend notamment en Ligue des Champions. Il a déjà mis 3 buts en 3 matchs. On va dire que même s'il n'est plus aussi performant qu'avant sur toute une rencontre, comme on le répète à chaque fois qu'on évoque le sujet Messi, au final, c'est quelqu'un qui est là pour faire des coups d'éclat. Il arrive plutôt pas mal, je pense, depuis le début de la saison. Après, voilà, je pense qu'il y avait un souci un petit peu physique, on va dire. Je pense que l'enchaînement des matchs, la Copa, le fait de partir brusquement du Barça, psychologique, je voulais dire, dans sa tête, c'était pas très, très, très clair. Et voilà, maintenant, je pense que il a plus la tête reposée. Je pense que on espère en tout cas qu'il apporte, qu'il doit porter au club. Après, comme ça a été dit, c'est vrai que Paris en Ligue des Champions, c'est compliqué parce que le collectif en soi est mis en difficulté, parce que aussi le coach n'arrive pas à mettre une réelle identité de jeu en place. Mais au final, on va dire que Paris, sur des exploits individuels, ils ont la qualité pour aller loin. Après, c'est au fur et à mesure, étape par étape. Souvent, on dit qu'en février, mars, c'est là qu'on attend Paris. On va déjà les voir la semaine prochaine contre City, voir où ils en sont dans la progression, et on espère que voilà, Paris démontre encore de belles choses, et Messi avec en première ligne.
Ouais, puisqu'il n'est pas évident pour le PSG, vous dites tous qu'on a, il y a besoin de temps, hein. On va voir la montée en puissance contre City, mais entre temps, de même titre que pour City, hein, tous les joueurs sont partis en sélection, donc c'est peut-être pas aussi évident de mettre en place un projet de jeu, Abdel.
Ouais, un projet de jeu, je sais pas trop, parce que on le répète encore à chaque fois, mais à un moment donné aussi, les joueurs, ils sont payés des mille et des mille. S'ils ont besoin, ils veulent atteindre certains objectifs, c'est à eux aussi de se bouger sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de tous. Après, oui, du temps, c'est vrai, mais il y a un recrutement qui a été fait du côté du PSG depuis plusieurs années. Enfin, là, il le disait justement en parlant de Mota, il en parle très bien. Ils ont enchaîné des joueurs à des postes où le PSG n'avait pas forcément besoin, où à l'époque, il y avait des joueurs aussi dans le centre de formation qui pouvaient très bien être quatrième milieu ou quatrième défenseur ou quatrième latéral ou ce que vous voulez. Et il y a des postes clés où Paris n'est pas allé chercher justement les renforts nécessaires. Donc au final, tu bricoles, tu brodes, tu essayes de faire des coups qui ne marchent pas, et au final, voilà, tu te retrouves pas au point zéro, parce que tu fais une finale et une demi sur les deux dernières années, mais bon, tu te dis que ça pourrait être mieux, voilà, que Paris n'est pas encore assez rodé, qu'on trouve sur les individualités, alors qu'il faudrait avoir les individualités, certes, mais quand même un minimum de collectif pour un club qui s'appelle le PSG, quoi.
Merci Abdel, merci, en tout cas tu reprends la route là, non, c'est ça, hein.
Je vous rejoins là, d'ici la pub, je serai en plateau, à la surprise.
Ok, merci Abdel. Allez, petite page de pub, petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne sport, 20h. 21h avec Abdel, voilà, qui est là physiquement, qui nous a rejoint. Comment ça va, Abdel?
Ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là et bienvenue encore à notre invité, même si j'ai déjà dû porter téléphone.
Ouais, et puis Fala qui est aussi avec nous ce soir. Alors vous avez laissé en fait l'invité seul. Voilà. Donc là vous êtes, il y a une confrontation consultant invité. Vous êtes comme ça, vous.
Non, la place de l'invité est là-bas. On a nos repères, comme on dit. On a nos repères dans
le
studio.
On passe à la suite.
Time Sport, The Special One.
Et oui, notre invité qui a bien parlé, notamment du Paris Saint-Germain, fin connaisseur de football. Jeff est avec nous. On peut dire, elle est responsable de la FCGR Academy 24, si je ne me trompe pas. Moi, je vois plein d'éléments. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette académie et comment ça s'organise ?
Bah, la Gira Academy, c'est une école de football de perfectionnement qui a été créée il y a déjà maintenant bientôt 7 ans. Donc sur ces 7 années, elle a vraiment évolué. Et aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui viennent en perfectionnement au quotidien s'entraîner chez moi, travailler leurs défauts, mais aussi leurs qualités. La Gira Academy, c'est aussi une école de, où on apprend la rigueur, le sérieux, le travail. Et tous les gamins qui viennent chez nous dès l'âge de 4 ans, on leur apprend à bien se tenir, à vraiment avancer dans la vie. Comme on dit, le football est l'école de la vie. Donc, ça, il n'y a pas que le foot, mais il y a plein d'autres choses à la Gira Academy. Mmh. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet à des garçons aussi qui sont en centre de formation, des garçons qui sont en pré-formation, ou même des joueurs professionnels de venir s'entraîner sur mes installations et de profiter de la transmission que je peux leur apporter. Voilà, c'est ça la Gira Academy.
Abdel, question.
Justement, tu le disais, ça fait 7 ans que ça a été créé. Je voulais te poser justement la question de, on va dire, cette mode. Tout le monde crée un peu ses académies, ses stages un peu de perfectionnement individuel, etc. Comment c'est arrivé justement cette vague-là?
Bah, je pense que les gens, après, ils ont surfé sur aussi, il y a eu le Covid. Et non, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et pendant le Covid, les clubs n'entraînaient plus. Donc en fait, il y a énormément d'éducateurs qui ont créé leur propre académie, puisqu'ils n'avaient plus leurs installations dans leur club, ce qui est normal. Hein. Une passion reste une passion. Et ils ont pu aussi avoir à entraîner des jeunes. Donc je pense que c'est les gens, ils ont surfé sur cette vague-là, en fait.
Et comment on se différencie justement, ne serait-ce pas que par l'ancienneté, mais de toutes ces académies qui se créent ou associations, comme on peut les appeler?
Moi, je ne vais pas trop parler des autres parce que je ne les connais pas, je ne vais pas les voir. Je ne regarde rien du tout. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la mienne, le développement de la mienne. Moi, je vais te dire que moi, chez moi, il y a un vrai suivi. Donc, les garçons qui sont à l'entraînement chez nous, en tout cas dans mon académie, il y a un suivi de match. Donc, on se déplace sur les matchs. Il y a un suivi scolaire où je récupère les bulletins scolaires, où je me déplace pour certains joueurs dans les écoles qui ont des suivis de mon académie à l'école. Donc moi, je pense qu'on essaye d'apporter aux enfants un plus. Tous ne deviendront pas footballeurs professionnels, mais tous deviendront des hommes bien éduqués, et c'est ça qui m'intéresse. Donc je pense que dans l'évolution de cette académie là il y a aussi les voyages à l'étranger, où on a fait un tournoi international l'année dernière qu'on a gagné à la Madrid Cup. On a été vainqueur de ce tournoi, ce qui a mis en valeur aussi notre travail, parce que c'est des garçons qui sont là depuis 3-4 ans. Et les garçons qui sont cette année rentrés à Clairefontaine, d'autres garçons qui sont rentrés avec le professionnel aussi, sont issus de la Gira Academy. Donc je pense que sur la longévité et ce qu'on fait, on est assez cohérent.
Vous êtes combien à gérer la structure? Enfin, au sein de la structure, vous êtes combien à travailler?
On est deux coachs sur le terrain et une autre personne qui travaille à côté sur la communication, tout ça. Voilà.
Fala, ouais, réaction.
Moi, déjà, je vais pas lui poser de questions parce que
tu le connais.
Je sais déjà ce travail qu'il fait, donc je vais pas lui poser plus spécialement des questions. Mais tout à l'heure, on parlait en antenne, justement, il était sur un nouveau projet et ça me fait super plaisir. Justement, il va partir en Afrique apparemment, donc c'est bien de se lancer aussi sur ce continent, plus du côté de, tu nous diras quel côté. Mais pour en venir à toi, Abdel, justement, ça fait plus de 7 ans qu'il a son académie, hein, justement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça se développe. Les gens, comme tu as dit, c'est la mode. Mais tu vois, Jeff, moi, en tant que joueur et en tant que quand il a créé son académie, et franchement, tu peux envoyer tes enfants.
Alors justement, voilà, moi je te pose la question, parce que tu es dans le milieu, tu connais, il y a beaucoup d'académies quand même qui... qu'est-ce qui fait la différence entre l'académie de Jeff et peut-être d'autres académies que tu connais?
Déjà sa volonté.
Mais toi, il va pas nous dire le contraire, lui.
Non, c'est suivi. Parce que tu sais, c'est pas donné à tout le monde de suivre un enfant et aller jusqu'à aller au collège, parce que peut-être le principal il va appeler, peut-être que ça mieux passe avec le côté sportif, c'est-à-dire ils vont appeler Jeff, c'est-à-dire le gamin il va peut-être se remettre en question, peut-être une autre académie va peut-être pas s'appuyer sur ça.
Il y a plein de
c'est ça, et des fois c'est ça tu sais, la carrière d'un joueur quand il est jeune, ça peut partir sur les petits trucs comme ça. Il est bien encadré. Nous, malheureusement, à l'époque, on était mal encadré, donc on pouvait faire ce qu'on voulait quand on voulait, personne. Et ça, tu vois, je m'en veux un peu. Mais aujourd'hui, il faut des personnes comme Jeff.
Ouais, justement, Jeff, est-ce qu'ils en sont conscients, les jeunes, que tu rentres dans une académie ou dans un centre de formation, mais que ça va être compliqué, il va falloir se battre pour être un footballeur professionnel.
Bah, c'est ce qu'on
c'est le travail quand même.
C'est le travail que je fais au quotidien. Donc ça démarre de la base. Nous, les enfants de 4 ans chez nous, il y a des vraies règles dans l'académie. Il y a des vraies règles. Je vais t'en donner une par exemple. Il n'y a aucun enfant qui s'assied pas en tailleur. Il n'y a aucun enfant qui porte pas son sac. Tu vois, ce sont des règles de vie qui seront pour toi peut-être banales, mais qui vont lui, plus tard, qui vont lui servir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, je l'ai mis en place. Donc, quand tu vois qu'il y a 40 enfants sur un terrain et qu'ils ont 4, 5 ans et 6 ans, il n'y en a pas un qui parle, c'est qu'il y a une vraie gestion de ça. Il y a des vraies règles. Et c'est ça qui fait la différence entre peut-être d'autres personnes et cette académie-là. Et c'est pas pour la vanter, puisque je la regarde pas. C'est surtout ça, tu vois. C'est surtout de mettre une vraie rigueur, tu vois.
Abdel,
non. Ouais, justement,
qui parcourt les terrains dits de France et de Navarre.
Ouais,
il a été voir la dernière fois les U16 de Montluçon contre les U16 de Eïda. Eïda, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Clermont-Ferrand.
Ouais, je vais voir les matchs, oui, pour le plaisir avant tout. Mais je voulais justement enchaîner sur ce que disait Fala. Quand on est en place, on va dire depuis 7 ans, on va dire entre guillemets précurseur, je mets des guillemets à ce genre de projet. Comment on essaye de se renouveler? Il a parlé d'un projet en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ben il y a, je reviens d'Afrique. Ça fait à peu près 3 semaines et demie. Je suis parti en Guinée pour ouvrir une deuxième académie. D'accord. Donc
je me permets. Guinée-Conakry.
Donc je suis parti en Guinée pour faire la préparation de joueurs professionnels. Et en même temps, j'ai organisé un grand tournoi en Guinée où j'ai pu recruter des joueurs de grands talents. Et j'ai ouvert une académie au sein d'un club professionnel. Donc une académie qui marchera comme la JR24. Donc elle est officielle, elle est ouverte, ça y est. Et je repars demain, je prends l'avion pour aller poser les méthodes, les éducateurs. Et l'académie a vu le jour là en Guinée. Donc c'est une grande fierté.
Pourquoi l'Afrique? Pourquoi la Guinée? Comment ça s'est fait?
Moi je suis d'origine antillaise, je suis de.
Les antillaises sont les Africains.
Je suis originaire d'Afrique. Et ça a toujours été un rêve pour moi. Tu sais, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que j'avais rien à faire. Moi j'avais d'autres choses à faire, j'aurais pu faire plein de choses. C'est pas un problème pour moi. Moi c'est un rêve, moi j'ai toujours voulu, même quand j'étais joueur de foot, créer ma propre école. Donc ça c'est un rêve, donc je peux te dire que c'est un rêve qui date de très très longtemps. Donc, et c'était un rêve aussi de créer quelque chose en Afrique, de pouvoir faire des passerelles avec les joueurs africains. Et là je l'ai réalisé, et ça c'est une grande grande fierté. Donc je l'ai fait en Guinée, à Cancan, je l'ai fait dans une ville où il n'y a rien. Parce que j'estimais qu'aller à Conakry, ça allait être plus facile pour moi. Et moi, je voulais de la difficulté. Et je l'ai fait à Cancan. Donc, l'académie GR24 est ouverte au FC Milo, club de Ligue 1 de Cancan. Voilà.
Ça t'a mis combien de temps pour driver tout ça?
Une bonne année. Une bonne année de préparation entre mettre les choses avec les personnes là-bas. Tu sais, dans le football africain, tu sais, on a beaucoup de projets, mais ça avance pas vite en Afrique, malheureusement. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un de déterminé, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, qui peut aller n'importe où, et qui ose. Et j'ai osé. J'ai fait, et là, j'ai réalisé ça, et je suis très, très fier de pouvoir maintenant avoir un pied à terre en Afrique, et de pouvoir m'en occuper de France, et de faire des voyages entre la Guinée et la France.
Je me permets, le FC Milo qui est en tête, parce qu'il le dit pas, du championnat guinéen.
Modeste.
Le FC Milo qui a battu les éléphants de Coléa sur le score de 2-1. Voilà, donc, bravo à toi.
Je pars demain, de toute façon. Demain, je suis dans l'avion.
On va remettre de l'ordre dans tout ça.
Et oui, Yanis, le FC Milo. Et oui, tu viens d'apprendre ce soir.
Le basketteur, lui, il connaît pas.
À part le bon milieu, je sais pas.
La question que je voudrais te poser, justement, par rapport à tout ça, c'est aujourd'hui, on va dire que certains éducateurs ont plusieurs casquettes, notamment pas que d'apprendre entre guillemets les bases du football aux enfants. Il y en a qui se prennent pour des préparateurs physiques, il y en a qui se prennent pour des agents. C'est pas un fléau que tu peux ressentir toi autour de toi avec les joueurs de qualité que tu peux avoir?
Ben moi je le ressens pas à l'académie GR24 parce qu'on a mis les fondations. Tu sais, à l'académie GR24, les choses sont bien définies. Donc les joueurs qu'ils ont, leurs conseils, on les connaît, on sait avec qui on travaille. Moi personnellement, je suis une personne qui n'a pas cette double casquette. Moi, je suis un entraîneur, un préparateur. Voilà, moi j'ai les diplômes de préparation physique et les diplômes d'entraîneur de football. Donc moi, je m'arrête à là. Après, je peux donner des conseils, bien sûr, sur tel ou tel club et tout ça. Mais après, quand ça rentre dans le domaine d'autres choses, c'est pas du tout mon objectif de faire ça. Après, bien sûr, dans le football, il y en aura toujours, tu le sais très bien. Dans le football, il y aura toujours des gens bons ou peut-être un peu plus vicieux. Et ça fait partie du métier. On le connaît, on le sait tous. Et on pourra rien faire contre ça. Tant qu'il y aura pas des vraies règles bien définies, on pourra rien faire contre ça. Donc, en fait, je pense que ça gâte le football. Parce que c'est vrai, tu as raison, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui s'autoproclament conseillers, il y a des gens qui sortent de nulle part qui s'autoproclament agents, même si c'est la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Quelles sont les armes qu'on a pour arrêter ça? Quand, par exemple, un mec de quartier, il sort de chez lui et il s'autoproclame agent parce qu'il a vu une pépite de 12 ans sur le terrain, c'est très très grave. Et après, moi je pense que il faut donner une prévention aux parents. Moi je parle beaucoup aux parents. Une prévention, de faire attention. Et qu'ils ont le temps pour ça, et que les choses viendront à eux parce qu'ils sont bons. C'est le terrain qui parle. Et c'est pas parce qu'on vient te voir que forcément c'est parce que t'es bon. C'est surtout ça, je pense. Donc moi je pense que c'est la prévention. La prévention des éducateurs, la prévention des entraîneurs, parce que c'est pas la même chose. La prévention des parents aussi, envers leurs enfants. Et des clubs aussi. Je pense qu'avant chaque saison, les clubs, ils devraient voir les enfants en rendez-vous pour leur dire que voilà, faut faire très très attention à tout ce qui se passe autour du football.
Les conseillers.
Ouais.
Abdel.
Ouais, une dernière. Justement, quand on a une académie, c'est vrai que même si on suit les enfants régulièrement et qu'on peut les emmener en tournoi, est-ce que c'est différent de lorsqu'on a une équipe au quotidien dans un club?
Moi, je dis toujours qu'une académie, c'est un petit peu comme une sélection. C'est un petit peu une joie de vivre. Tu vois, les enfants, ils viennent de tous les clubs. Comme moi, quand je suis parti à la Madrid Cup, j'avais des joueurs de plusieurs clubs, tu vois. Et je trouve que c'est un petit peu comme la sélection d'équipe de France ou du Brésil ou quoi. On va dire que c'est un vent de fraîcheur. C'est des problèmes différents à gérer. C'est pas pareil que t'as une équipe, que ton équipe dans ton club. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et je trouve ça super pour les enfants de pouvoir jouer avec des joueurs contre qui ils jouent aussi, tu vois, en championnat. Donc c'est super. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Quand c'est bien géré, quand c'est bien amené, je trouve que c'est une très bonne chose pour les enfants.
T'as commencé par la Guinée avec le FC Milo, je rappelle, un leader du championnat de Guinée. On en parlera tous les soirs maintenant sur Time Sport. Est-ce que t'envisages éventuellement peut-être de t'orienter sur d'autres régions, d'autres pays en Afrique, voire d'autres régions du monde? C'est
déjà
un des objectifs rêvés, non?
Moi, je pense que ouais, je m'arrêterai pas là. Je m'arrêterai pas là tant que je pourrais donner de mon temps et donner des moyens pour permettre à des pays de se développer en termes sportifs, parce que le sport, c'est mon domaine, et que je pense que le sport, déjà, avant d'être du sport, c'est de l'éducation. Donc je pense que je vais continuer à me battre dans d'autres pays. Voilà, j'ai des projets dans d'autres pays pour développer d'autres académies et permettre à des joueurs africains aujourd'hui de pouvoir rêver, et mieux rêver, et de réaliser le rêve de venir en Europe et pourquoi pas de rentrer dans des centres de formation.
Justement, avec les contacts que tu as pour le moment, est-ce que tu ressens par moment de la réticence de la part de certains dirigeants africains? On sait que c'est pas toujours évident non plus d'imposer un projet sur la durée, etc. Toi, ton expérience personnelle pour le moment jusqu'à présent?
Moi, j'ai des bons rapports avec eux, ça va, mais après, il y a une petite réticence du club par rapport à l'âge. Donc, tu sais qu'en Afrique, voilà, c'est toujours compliqué. Donc faut faire très attention, mais sinon quand t'as des bons rapports et que t'as jamais dévié, t'as toujours été quelqu'un de correct, généralement les choses se passent très très bien, tu vois. Donc forcément non, j'en ai pas eu pour le moment. Pour l'instant, les rapports entre nous et les personnes se passent très très bien par rapport aux pays africains.
Abdel Fallah, non, on n'a pas envie d'aller en Guinée là pour voir.
Non, mais quand
toi qui parcours la France là, t'as pas envie d'aller en Guinée avec Jeff là?
Déjà, il y a des choses à voir en France, non? Ah, mais là, là. Plus honnêtement, déjà avec les réseaux sociaux là, il y a des possibilités de suivre déjà son évolution. Après, on peut que entre guillemets féliciter ce genre de projet, comme il l'a dit. En fait, plein de personnes ont des idées et vont pas forcément au bout. Là, il a le mérite de l'avoir au moins créé. On va lui souhaiter le plus de réussite possible.
Merci.
Et c'est déjà un bon pas d'avoir mis quelque chose en Afrique, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à exploiter le potentiel local dans n'importe quel pays, en fait. Donc voilà, moi je le félicite pour ça. Après, on espère Et on verra avec les réseaux sociaux la suite.
Je rebondis, Abdel, tu parlais des réseaux sociaux. J'avais envie d'avoir ton avis. Tu sais, on voit quand même pas mal de jeunes mis en avant sur les réseaux sociaux qui ont entre 8 ans, 9 ans. Tu vas voir le petit faire quelques gestes techniques.
De l'achat de followers.
Toi, est-ce que tu penses que ça peut... c'est bénéf, ça peut nuire. Quel est ton ressenti par rapport à ça?
Moi, je pense que, comme moi, j'ai fait de la prévention par rapport à ça dans mon académie. Donc, c'est les parents qui gèrent les réseaux sociaux de leurs enfants. Et nous, on fait très attention, que ce soit moi ou mon frère Whitson, ou même mon autre frère, aux réseaux sociaux de nos joueurs à nous, par rapport aux choses qu'ils partagent et tout. On fait très, très attention à ça. Tu vois, ça, c'est aussi un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. Mais
on fait très attention.
On fait très attention aux joueurs, qu'est-ce qu'ils partagent et qu'est-ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, une académie, c'est un gros travail. En tout cas, moi, personnellement, j'y passe ma vie.
T'as le sentiment que le travail est plus important, en réalité, en dehors, hein, terrain. C'est l'environnement, surtout.
Je dis toujours que l'invisible donne le visible. Donc c'est l'invisible qui va faire en sorte que on va dire que t'es quelqu'un de bien et que tu te prépares bien. Donc l'invisible, c'est ça, c'est ce que le gars fait, ce que tu ne vois pas en fait. Donc il faut les suivre par rapport à ça. Mais ouais, les réseaux sociaux, faut faire très attention. Mettre un enfant en avant trop souvent sur un réseau, pour moi, c'est l'amener à l'abattoir.
On voit des pépites partout, Abdel. Des pépites, l'autre, il filme un tel, il dit c'est une pépite.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
On surexpose trop tôt. Bah oui, surexpose trop tôt. Là, je disais pendant que Jeff prenait la parole, on voit des petits qui ont 10K de followers. Les parents, ils achètent pour dire qu'en gros, ils sont suivis. Mais à un moment donné, voilà, quand tu connais un minimum les réseaux, tu sais que c'est un peu de la magouille et ça sert à rien en fait. À 8 ans, 10 ans ou quoi, tu peux filmer les trucs de ton fils. C'est toi qui gères son image, mais que ce soit déjà la famille, les amis proches, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin d'être vu aux yeux du monde entier, comme ça a été dit. Quand t'es bon, c'est le terrain qui parle, et c'est pas parce que forcément t'as un bon agent, une bonne connaissance dans un certain milieu.
Justement, Jeff, on a le sentiment que on oublie qu'avant tout le football, comme tout sport, mais on parle football, c'est un jeu,
un plaisir.
Pour les enfants, c'est un plaisir. Enfin, ils sont là à la base pour s'amuser.
Ouais, mais en fait, je pense que on oublie ça. Mais je pense que c'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Le monde du football a évolué, Claudie. Ça a beaucoup évolué. Quand tu vois aujourd'hui qu'un enfant, il signe un ANS à 13 ans, ça, tout le monde est au courant de ça. Il faut pas se mentir, aujourd'hui, les enfants sont au courant qu'il y a des enfants de 13 ans qui signent dans des clubs pro. Donc tout le monde veut signer. Et c'est ce qui fait que c'est autour de ce football-là, c'est un peu malsain. Pourquoi autour des terrains aujourd'hui t'as des parents qui se battent avec des éducateurs? Pourquoi t'as des personnes qui crient autour des terrains? Pourquoi passe la balle à mon fils c'est le meilleur et ceci et cela? Pourquoi
ton avis? Faut les virer, les parents.
C'est pour... si tu fais ça aujourd'hui, et moi je vais sur les terrains, tu vas virer énormément de gens. Mais c'est parce que aujourd'hui le football a pris une ampleur qui est différente de nous il y a 20 ans. Nous il y a 20 ans, à 13 ans, tu parles pas de contrat avec un joueur.
Ouais, mais il y avait pas de réseaux sociaux.
Voilà, il y avait pas de réseaux sociaux.
Allez, on se retrouve juste après la pub.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et on est de retour pour la troisième partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne, pendant que Fala nous sert à boire. Et gentil Fala, Abdel. Hein.
Toujours très serviable.
Ah, toujours très serviable, Abdel. Avec nous, Fala, bien sûr, les consultants du soir, sans oublier Jeff et son académie. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir ce soir, parce qu'on en apprend beaucoup, Abdel. C'est tellement important aussi, hein, de cette gestion des jeunes. On sait qu'il y a peu d'élus pour être professionnels, et ça, on le dit pas assez, hein, Jeff, Abdel. Vos réactions?
Ouais, non, bah. C'est maintenant tu signes très tôt. Avant, comme on le disait avant la pub, t'avais un joueur de ton équipe ou de sur deux trois générations qui pouvait sortir et tu savais que il allait aller très haut. Aujourd'hui à 12 ans, tu peux plus rien, enfin tu peux plus être libre. Moi je suis de ceux qui pensent que plus tu signes tard, plus c'est bien. Plus tu te rapproches du monde pro, allez, on va dire U17 nationaux, U19 nationaux, on va dire, ou même U18 terrain. Je trouve que si tu signes à partir de là, je trouve que t'es déjà plus mature, t'es dans ton environnement, t'as vécu, et là tu peux commencer à mûrir. Là, à 13 ans, il suffit que on te fasse signer quelque chose. Ben toi, le petit, déjà, il peut perdre en qualité et se dire que c'est acquis. Si tu progresses, il y a d'autres gros clubs qui peuvent venir, mais au final, vu que t'as signé quelque chose, eh ben t'es bloqué. Sinon, faut payer ce que t'as les années de formation qui aurait dû avoir. Donc voilà, pour moi, c'est très très beaucoup au départ, peu à l'arrivée. Au final, voilà. Et comme on le disait avec Fala, les parents vivent le rêve de leurs enfants à travers leurs petits, au lieu de les laisser vivre et de leur laisser prendre leur plaisir qui est le football.
Pour finir, Jeff, est-ce que les parents sont les cancers du football?
Bah, je vais pas dire.
Sur les terrains, sur les
sourire, ça veut déjà tout dire. Hein.
Non, je vais pas dire le cancer parce qu'il y a aussi des gens bien. Moi, j'en ai croisé des gens bien. J'ai des parents, même dans mon académie, qui sont très, très, très bien.
Heureusement qu'il y en a.
Mais moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Il y a beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. Maintenant, un garçon qui signe à 13 ans, il faut le garder en haleine. Ça veut dire qu'il faut lui faire comprendre que ça veut rien dire, que rien n'est acquis. Et il a raison là-dessus. Plus tu signes tard, pour moi en tout cas, plus tu as de chances d'aller dans le monde professionnel, parce que tu seras beaucoup plus frais et beaucoup plus mûr. Mais maintenant, ça veut pas dire que si tu signes à 13 ans et que t'es bien guidé, bien conseillé, et que les parents sont à l'écoute et que chacun fait son travail, que le petit ne va pas y arriver non plus. Tu as vu Mbappé.
Voilà, pour terminer.
Non, mais c'est ça. De toute façon, après, Jeff, il a son académie, donc et c'est depuis tout à l'heure, c'est sur ça où il insiste. C'est du moment où tout est clair avec les parents dès le départ. Je pense que les parents, après, l'enfant, il le laisse avec l'éducateur ou le coach, et ça y est, c'est parti, ils lui font confiance. Faut juste, encore une fois, c'est le dialogue. C'est une question de dialogue pour moi. Et fin.
Merci, Fala. On passe à la suite.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Les amis, Juninho, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, a annoncé chez nos confrères de RMC qui devrait normalement quitter ses fonctions. Il cite « J'espère bien finir la saison et à la fin de saison, normalement, c'est terminé. J'ai envie de me reposer un peu. Entraîner, ça reste dans ma tête. J'aime le foot, le terrain et les entraînements. » La tactique, etc. Est-ce que vous êtes surpris par les déclarations, les amis, de Juninho?
Surpris, on va dire que oui et non. En fait, on peut se placer des deux côtés. C'est vrai qu'il a eu un début difficile parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a marqué du côté de Lyon. Il est venu en tant que directeur sportif. Ça, il a proposé directement un coach qui est Silvinho, avec lequel ça a pas marché. Donc lui déjà. Il se met entre guillemets un peu en difficulté dans le message qui peut envoyer. Après, par la suite, il y a eu du mieux, il y a eu des choses qui ont été faites. C'est quelqu'un qui est assez discret, mais je pense que pour ce poste-là, c'est peut-être pas la meilleure personne parce que faut être déjà à savoir communiquer. Il est avec Olas qui lui a fait confiance, mais c'est quelqu'un quand même qui a été très performant sur le terrain. Donc, on va dire que c'est pas parce que t'as été bon sur le terrain que tu vas être bon en tant que coach ou même en tant que directeur sportif. Mais au final, je pense que c'est quelqu'un qui aime vraiment être un acteur principal du terrain, être proche. Et je pense que la déclaration, il l'a fait un peu. Il aurait dû la faire en interne, parler avec ses dirigeants. Donc la faire en pleine presse, c'est dommage. Mais je peux comprendre son ressenti parce qu'il a peut-être pas soit eu les pleins pouvoirs, soit pu mettre en haleine ce qu'il souhaitait faire dès son arrivée.
Ouais, on parlait un petit peu avec Jeff de l'état d'esprit, l'importance d'un futur joueur pro. Lui, il pointe comme du doigt l'égoïsme dans l'effectif lyonnais, certainement dans le milieu du football. Est-ce que toi, Jeff, ça te...
Ça me surprend pas. Hein. Ça me surprend pas que dans le football, il y a de l'égoïsme. Il en faut de façon un petit peu. C'est ça qui fait que tu es dans le monde professionnel. Si tu n'es pas un petit peu égoïste...
Le professionnel le plus égoïste.
Si tu n'es pas un peu égoïste, tu n'arriveras à rien. Après, moi, je pense que il subit aussi énormément de pression de par son passé, son passif aussi avec l'Olympique Lyonnais. Parce que quand tu as été un joueur, c'est un emblème à Lyon. Hein.
Majeur,
ouais. C'est coups francs incroyables. Donc quand tu as ce passif avec un club et que tu arrives en tant que directeur sportif et que c'est un petit peu bancal, comme il a dit mon collègue. Franchement, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, tu as envie de te reposer. Parce qu'il y a tellement de pression dans le football, je peux te le dire, qu'à un moment donné, tu as envie de couper et tu as envie de faire autre chose.
Voilà. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi. Alors après, on n'est pas dans sa tête, mais je pense qu'il a dû. Il a dû mélanger parce que ce mec-là, il est encore là. On le voit bien dans tout ce qu'il dit. Il a envie de. Le mec, il a envie d'être sur le terrain.
Il a envie de jouer, il a encore la fibre.
En fait, et je pense qu'il y a eu un problème en fait. Il a dû se mettre à ce poste-là à contre-cœur, en fait. Parce qu'il y a eu un appel de Jean-Michel Aulas. On sait que les deux rapports qu'ils ont les deux ensemble, c'est fusionnel. Tu vois, donc je pense que en fait, c'est une erreur de casting, en fait.
Ouais, ouais.
Tu vois, je pense que même à la rigueur, t'aurais mieux fait de mettre Juninho sur le banc. Tu vois, et trouver un autre directeur sportif.
Non, il aurait été novice aussi, Edwinho, sur le banc.
On voit bien, de toute façon, quand.
Il le dit, il a envie d'entraîner.
Il était encore en train de tirer des coups francs sur le terrain. Il était encore.
Ouais, avec des souliers, les souliers brillants. Non, mais. Il allait tirer des coups francs aux entraînements.
Il est très, très fort. Mais tu. Quand il parle, en fait, c'est vrai qu'il a, il a pas cette. Il n'a pas cette retenue. Il parle comme quelqu'un qui est, entre guillemets, dans le staff, qui est régulièrement là sur le terrain, en train de voir les séances, en train de voir les matchs. Alors que il peut avoir ce discours-là, mais dans l'autre sens, avoir un, quelque chose de plus retenu, avec des choses un peu plus claires par rapport à son rôle. Je pense que, comme il a dit, c'est une erreur de casting, dans le sens où je pense que il s'attendait pas à ce que à ce que ce rôle-là se présente de cette manière. Trop de choses peut-être à gérer dont t'es pas prêt. Et voilà, quand t'as arrêté ta carrière, on va dire peut-être pas tôt, mais t'as encore des capacités à jouer, etc. Et que bon, physiquement tu tiens plus trop, mais que tu dis là je peux apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi pas? Peut-être pas directement adjoint, entraîneur principal, mais adjoint, ça aurait pu être quelque chose. Il aurait pu accompagner Silvinho, par exemple.
Ouais, pas oublier que ça a été chaud avec Rudy Garcia, par moment, avec Florian Maurice, parti à Rennes.
Je pense qu'en fait,
est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir eu peut-être les pleins pouvoirs?
Je pense que c'est plein pouvoir, je pense que c'est le poste, en fait. Le poste, je pense qu'il a pas, c'est encore tout de suite
les épaules.
Ouais, les épaules. Et même, on voit bien, en fait, dans ses communications, c'est de la maladresse. C'est pas méchant, en fait, quand il fait des déclarations, vous voyez bien, à chaque fois, c'était, ça envoyait un peu de le, tu vois, mais c'est de la maladresse, parce qu'en fait, ce poste-là, c'est, il a pas encore, il connaît pas ce poste-là, en fait. Olas l'a mis là, pour le, tiens, tu vas apprendre, mais c'est à ce niveau-là, je trouve que, tu vois.
Jeff, ton ressenti, toi?
Non, moi, je pense qu'il n'était pas prêt pour ce poste-là. Ouais. Moi, je pense que je suis un peu d'accord avec eux. Je pense qu'il aurait dû être entraîneur adjoint, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que le poste de directeur sportif, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir vraiment le charisme pour ça et savoir parler et être malin et peut-être même parfois vicieux. Tu vois, Leonardo, ça lui va parfaitement. Tu vois, Leonardo, il sait même retourner cette pression sur lui et non sur l'équipe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même quand tu vas lui poser une question, il va t'emmener à droite alors que la question, elle était à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que Juninho, il aurait pu faire autre chose que d'être directeur sportif.
Allez, on passe à la suite.
Time Sport.
L'OM s'en sort bien, match à huis clos, après notamment un feu follet, un ami là, d'Abdel qu'on a vu sprinter sur la pelouse du Vélodrome, et puis après bien sûr les tifos, voilà, assez, on va dire, assez abusifs de la part des supporters marseillais pour l'LFP, bien sûr, attention. L'OM s'en sort plutôt bien, Fala.
Ouais, non, Marseille s'en sort bien là.
C'est bon. C'était un peu chaud depuis le début de la saison, hein.
Ouais, mais là, c'est une petite passe en profondeur qu'ils ont fait l'Olympique de Marseille. Je pensais que ça allait être un petit peu plus sévère parce que c'était à répétition ce qui se passait avec l'Olympique de Marseille. Mais je crois qu'il y a des gardes à vue au niveau des supporters. Mm. Je crois qu'il y a des grosses gardes à vue qui ont été prolongées. Donc en fait, c'est peut-être plus en. Là, c'est en train de se jouer plus avec les supporters.
Mais ils ont tapé fort sur certains.
En fait, là, ça va être là. Mais après, moi, comme je dis, moi, pour moi, de toute façon, dans tout ça, c'est. Pour moi, la responsabilité, elle reste sur le club, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui est responsable des supporters, des gens qui vont aller se déplacer avec leurs enfants. Tu vois, dans les tribunes, pour moi, ça reste le principal concerné, c'est le club. Donc, mais retirer des points, c'est vrai que ça fait mal. Tu vas retirer, je sais pas, 5-6 points à un club parce que ça va faire mal dans l'année. Tu vois, tu fais les comptes à la fin de saison, les 6 points, ils vont. Mais si tu tapes pas fort, regarde en Italie, hein, ils ont tapé, ça marche un peu. En Angleterre, bon, on connaît le système anglais, il a fallu taper vraiment et ils ont réussi. Mais si tu tapes pas une bonne fois, tu veux faire quoi? Ça va être l'anarchie tous les week-ends dans les stades.
Il y avait un match de sursis. De toute façon, faut pas se mentir. Le PSG, le Marseille-PSG, il est arrivé. Fallait voir comment les filets, ils protégeaient. Il y avait 4 mecs qui tenaient comme ça des bâtons et ils se baladaient à chaque fois. Il n'y a même pas une bonne sécurité pour ne pas permettre d'avoir des projectiles ou quoi sur le terrain. Après, Marseille, c'est une ambiance chaude en général. Il y a toujours, c'est entre guillemets hostile avec des guillemets dans le bon sens du terme. C'est sûr qu'ils n'allaient pas rester intacts et rester sur leur siège. Allez l'OM, ouais, c'est très sympathique. Non, ça, il y a de l'ambiance, c'est chaud. Et ils étaient sûrs qu'ils allaient se le prendre le match de sursis après. Que ce soit dur ou pas, on va dire que c'est la logique parce qu'il y avait une première décision qui a été prise et elle est appliquée. Après, oui, je pense que, comme il dit Fala, il y a des supporters, on a évoqué le sujet ici plein de fois. Au final, ils vont juste foutre la merde, désolé du terme.
Foutre là, Abdel.
Non mais c'est la vérité.
Qu'est-ce que tu nous racontes?
Ils vont même pas, ils vont même pas
regarder. Ils foutent le bordel.
Ils vont même pas regarder les matchs. Donc le fait de cibler un petit peu, s'il y a des récidivistes, je pense que ça peut être une bonne chose pour interdire de les personnes qui viennent pas pour les bonnes intentions dans le stade.
Jeff, pour terminer, beaucoup de débordements de la part des supporters depuis le début de saison, hein.
Ouais, beaucoup trop de débordements, non-respect des joueurs, que ça soit un Marseille PSG ou quoi que ce soit, tu dois rester sur ton siège, que tu perdes ou tu gagnes, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il faut, là, il faut sévir très sévèrement. Je suis pas trop supporter marseillais en plus, donc, mais moi, je pense qu'il faut vraiment sévir. Faut sévir, comme ça, ça va s'arrêter, même enlever des points à l'équipe première, à l'équipe pro. Comme ça, à un moment donné, il y en a, ils vont rester assis sur leur siège et ils bougeront plus.
Tu sais, malheureusement, nous, après, c'est pas, au Paris Saint-Germain, c'est pas pareil, c'était différent. Il y a eu des morts, donc il a fallu prendre, il a fallu prendre des décisions.
T'étais obligé.
Mais je pense que
si on doit attendre ça pour prendre des décisions, c'est fou. C'est problème, hein.
Parce que nous, si tu regardes bien, c'était quand même incroyable ce qui se passe entre.
Ah, au parc, c'était incroyable.
C'était incroyable.
Ouais. Merci. C'était une honte. Merci Fala, merci Abdel, merci
à
Jeff.
Tous.
En tout cas, on te
merci
souhaite le meilleur pour la suite, hein.
Merci beaucoup, merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
Un grand plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Yanis, toujours efficace à la réalisation, qui me regarde avec un grand sourire. Passez une belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM.
Bonne soirée.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.